Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Contner.
RFI midi, 2 heures de reportage et d'analyse avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux partout dans le monde. À la une aujourd'hui, 11 mars, des premiers signes sur les places boursières à New York ou en Asie, de premières alertes sur l'état de l'économie américaine. Guerre commerciale, droits de douane, coupes budgétaires et expulsion à venir de travailleurs sans papier. Les projets de Donald Trump inquiètent plus qu'ils ne rassurent et nous en parlerons avec notre invité dans 3 quarts d'heure. Une rencontre cruciale pour l'avenir de l'Ukraine en Arabie Saoudite. Délégations américaines et ukrainiennes discutent d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Dans un instant, notre correspondante à Kiev nous dira ce qu'en attend le président Zelensky. Dans notre demi-heure européenne, nous irons aussi au Groenland. Les élections législatives aujourd'hui sont très marquées par les velléités de Donald Trump et font ressurgir des désirs d'indépendance.
Tout ça, ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés, on veut être nous-mêmes. Et le moment est venu.
Reportage de notre correspondante dans quelques minutes. Juste après le journal de 13h, temps universel, nous appellerons notre correspondant en Argentine, où un procès très attendu s'ouvre aujourd'hui, celui des médecins de Diego Maradona. Ils devront expliquer comment l'idole de très nombreux Argentins a pu mourir seul pendant sa convalescence, alors qu'il était censé être surveillé 24 heures sur 24. 7 personnes comparaissent pour négligence médicale. Et puis le football sur le terrain avec un quart de finale retour très attendu en Ligue des Champions. Liverpool reçoit le PSG. Les supporters des Reds attendent beaucoup de leur star, Mohamed Salah.
Absolument. Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Reportage de notre envoyé spécial à Liverpool à écouter dans moins d'une heure. Nous serons aussi en ligne avec lui dans quelques minutes. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Après le fiasco et l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche il y a 10 jours, après des tentatives timides d'apaiser un peu la relation depuis, les États-Unis et l'Ukraine se retrouvent pour des discussions en Arabie Saoudite. Les délégations sont à Jeddah et le négociateur ukrainien salue un début de rencontre constructif. Un signe encourageant pour des Ukrainiens encore très échaudés, mais qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de revenir vers les États-Unis. Emmanuel Chaz.
Du côté de la population, la désillusion vers les États-Unis est grande. Depuis la pause à durée indéterminée de l'aide militaire américaine, les Ukrainiens vivent la politique étrangère de Washington et son alignement sur les buts de Moscou en Ukraine comme une trahison. Mais ils ont également conscience que c'est dans l'intérêt de Kiev de tout faire pour sauver la relation États-Unis-Ukraine. Volodymyr Zelensky rappelle que l'Ukraine est reconnaissante et prête au dialogue, affirmant notamment que la position de la délégation ukrainienne était constructive et qu'il espérait un résultat pratique de ces discussion, alors que dans l'avion qu'il a mené à Jeddah, le secrétaire d'État Marco Rubio avertit que les États-Unis considèrent des concessions territoriales ukrainiennes comme inévitables. Cette question des territoires illégalement occupés est majeure puisque si l'Ukraine consentait à abandonner ses territoires conquis au mépris du droit international par la Russie, elle perdrait son intégrité territoriale. Autre dossier vers lequel les yeux des Ukrainiens se tournent aujourd'hui, celle d'une trêve proposée par Kiev mais ignorée par Moscou, la signature de l'accord sur les terres rares et le retour des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens toujours dans les prisons russes. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
En amont de cette rencontre, l'Ukraine a lancé une attaque massive de drones, plus de 300 engins contre la Russie et notamment à Moscou, où le gouverneur annonce la mort de 3 personnes. Il évoque aussi plusieurs blessés, dont un enfant. Les drones ukrainiens ont également visé la région de Koursk, partiellement occupée depuis le mois d'août dernier et où l'armée russe dit avoir repris le contrôle de 12 localités ces derniers jours. Nous reviendrons sur cette attaque de drones ukrainiens dans le prochain journal, dans moins d'une demi-heure.
RFI Midi.
On vote aujourd'hui au Groenland, territoire autonome danois, sous la menace impérialiste de Donald Trump qui persiste dans son intention de s'emparer de l'île. Et ces propos du président américain ont réveillé les velléités indépendantistes au sein de la population et de la classe politique, Ottilia Ferré.
Nous ne voulons être ni américains ni danois, c'est ce qu'a rétorqué le premier ministre groenlandais aux nouvelles menaces de Donald Trump. Selon un sondage, 85% des Groenlandais n'ont aucune intention de faire partie des États-Unis. Kira, étudiante de 25 ans, fait partie de cela. Voici ce qu'elle en pensait sur place à Nuuk, la capitale, en janvier dernier.
Tout ça, ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés, on veut être nous-mêmes. Et le moment est venu.
Les débats autour de ces élections tourne bien entendu autour des relations à entretenir ou non avec les États-Unis, mais l'enjeu principal, c'est l'indépendance du territoire qui est sous tutelle danoise depuis 1721. Ce désir d'indépendance, Donald Trump est venu, sans le vouloir, le renforcer. Kuba Nicholsen a 40 ans, elle est candidate aux élections sous la bannière de Naleraq, le parti indépendantiste, et elle se réjouit à moitié de la situation.
L'intérêt manifesté par Trump pour le Groenland est comme un moment de grande prise de conscience. Les Groenlandais commencent vraiment à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de valeur qu'ils ne le pensaient. Je vois ça comme une chose très très positive.
En temps normal, ces élections passeraient totalement sous les radars, mais cette fois-ci, elles sont sous haute surveillance et il se pourrait aussi que les Inuits soient appelés à voter de nouveau lors d'un référendum sur l'indépendance de leur territoire en avril, comme l'avait annoncé en janvier leur premier ministre. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
La menace Trump motivée selon de nombreux observateurs par les ressources en minerais du territoire. Le Groenland dispose de terres rares qui font l'objet pour l'instant de deux projets d'exploitation. Mais l'un d'entre eux est suspendu car le gouvernement interdit l'exploitation des gisements radioactifs. Dwayne Menezes dirige le laboratoire Polar Research à Londres et il s'inquiète lui aussi.
Ce qui me préoccupe, c'est la durabilité environnementale de ces projets, car les terres rares sont souvent accompagnées d'uranium et de thorium, des éléments radioactifs. Cela ne poserait pas de problème si les projets de terres rares se trouvaient dans des régions isolées du Groenland. Le problème ici est qu'ils se trouvent sur la seule ceinture verte du Groenland. Il y a une petite communauté locale, des fermes d'élevage de moutons, des sources d'eau à proximité des projets. Tout rejet de déchets miniers, et en particulier de déchets radioactifs dans l'eau, pourrait réellement affecter les communautés locales et leurs moyens de subsistance traditionnels. Les deux projets n'ont pas suscité la même controverse. L'un d'eux, Kringlerne, contient moins d'éléments radioactifs. C'est pourquoi il a reçu une licence d'exploitation. Le second projet, Kvanefjeld, a reçu une licence d'exploration, mais pas de licence d'exploitation, en raison de la controverse suscitée par le potentiel radioactif de l'exploitation minière. Cela a fait l'objet d'un procès, avec une demande d'indemnisation de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement du Groenland, qui est revenu sur ses autorisations. For having gone back on their
previous arrangement. Dwayne Menezes, directeur du laboratoire Polar Research à Londres, il répondait à Raphaël Morand. L'actualité en Europe, ce sont aussi les protestations qui se poursuivent en Serbie. Les étudiants sont toujours aussi largement mobilisés contre le gouvernement. Hier soir, ils ont même encerclé les locaux de la télévision nationale qui sert de relais au président Vučić pour sa communication. La situation se crispe, Laurent Rouy.
Depuis le début des protestations en novembre, la télévision nationale, la RTS, a été critiquée pour la partialité de sa couverture. Elle est ostensiblement en faveur du régime du président Aleksandar Vučić, même si une place non négligeable est dédiée aux manifestations étudiantes. Mais lundi, une journaliste de cette chaîne a employé le mot « horde » pour parler des étudiants qui ont réagi par un blocage de la chaîne hier soir. La police est rapidement entrée de force dans le bâtiment, causant un blessé dans ses propres rangs, sans entamer la détermination des manifestants. Depuis, le président Vučić a accusé des « hordes bolchevico-plénumières », en référence au mouvement étudiant, d'avoir attaqué le policier. Ce matin, des employés de la télévision se sont joints aux manifestants. Ils demandent à leurs collègues de sortir du bâtiment. Le principal syndicat de la RTS a aussi exigé de sa direction la démission d'un rédacteur en chef pro-régime et l'impartialité des informations diffusées à l'antenne. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse européenne. El País revient sur les procédures judiciaires en cours contre d'anciens hauts responsables de la région de Valence. Un peu plus de 4 mois maintenant après les inondations dramatiques qui avaient dévasté la zone, le magistrat reproche aux responsables du conseil le retard dans l'envoi de l'alerte, le retard dans la réunion des services d'urgence et le fait qu'ils aient reçu un avertissement suffisant pour connaître l'ampleur des inondations. Bref, rappelle le journal. Les juges soulignent la responsabilité des autorités régionales dans cette catastrophe en démontant point par point la grande majorité des arguments avancés jusque-là par les autorités. Depuis le manque d'informations pour alerter la population jusqu'à la répartition des pouvoirs dans l'urgence. La presse européenne se penche aussi sur la situation politique au Portugal. Le pays s'apprête à organiser des élections générales anticipées alors que le Premier ministre est confronté à un vote de confiance. Et puis bien sûr, la situation en Ukraine fait toujours la une et la question toujours très délicate de la défense européenne. Une réunion est prévue tout à l'heure.
RFI à Paris, 89 FM.
Il y a du football aussi dans l'actualité européenne aujourd'hui. Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions avec plusieurs affiches au programme, dont une majeure, Liverpool-PSG, 6 jours après la victoire in extremis des Anglais au Parc des Princes. C'est déjà la revanche pour les deux équipes dans le nord de l'Angleterre cette fois. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Anne.
Envoyé spécial à Liverpool, le match aller avait tenu vraiment toutes ses promesses et là aussi, on s'attend à voir une rencontre spectaculaire.
Oui, on avait surtout assisté à une démonstration du PSG qui avait largement dominé Liverpool dans des proportions assez inattendues. Hein. On va rappeler cette statistique qui est assez éloquente. 27 tirs pour les Parisiens, 2 seulement pour les Reds, dont un cadré qui a amené ce but vainqueur d'Harvey Elliott et qui a permis aux Anglais de faire ce braquage. Liverpool qui a conscience d'être tombé sur un PSG très performant. Les joueurs et l'entraîneur Arne Slot en ont parlé toute la semaine à chaque fois qu'ils ont été interrogés sur le sujet. Mais ils ont promis aussi qu'il ne ferait pas deux fois les mêmes genres de rencontres. On peut donc s'attendre à voir des Reds beaucoup plus tranchants à Anfield, même s'ils se méfient du PSG qui va devoir au moins gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Il y a tout de même de la confiance. Liverpool fait une saison magnifique. Leader du championnat anglais avec 15 points d'avance, meilleure équipe de la première phase. Et puis il y a ce score de 1-0 en ayant fait le dos rond avant de jouer le retour à domicile. Bref, on n'imagine pas ici un autre scénario qu'une qualification de Liverpool pour les quarts de finale.
Le PSG donc pour se qualifier. Lui va devoir vraiment réaliser un petit exploit.
Mais oui, parce que ce sera très dur, notamment parce que Liverpool réalise une grande saison, on l'a dit, et aussi parce qu'historiquement, les clubs français ne réussissent pas beaucoup lorsqu'ils se déplacent ici. 7 clubs et 7 défaites à chaque fois que l'un d'entre eux est venu disputer un match retour. Il y aura de la pression sur les Parisiens qui vont devoir se montrer beaucoup plus efficaces qu'à l'aller. Et enfin, tromper Alisson Becker, le gardien brésilien qui a été infranchissable au Parc des Princes. Paradoxalement, malgré la défaite de mercredi, il y a quand même de la confiance aussi côté parisien parce que Luis Enrique et ses hommes ont vu qu'ils étaient capables de bousculer ces Reds et qu'il n'y a aucune raison que cela soit différent ce mardi. La question, Anne, c'est de savoir si cette équipe très jeune sera capable de gérer cette fameuse pression que les supporters des Reds vont leur mettre pendant cette rencontre.
Cédric de Oliveira en direct de Liverpool. Le match commence tout à l'heure à 20h, temps universel, et il est à suivre avec vous en direct et en intégralité sur notre antenne. On vous retrouve à partir de 19h40, temps universel. Dans le même temps, l'Inter Milan défiera le Feyenoord Rotterdam. Duel 100% allemand à suivre aussi entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Et puis un peu plus tôt dans la soirée, le Barça jouera contre le Benfica Lisbonne.
RFI Midi.
C'est un constat qui inquiète les associations et l'Organisation mondiale de la santé. Les adolescents européens sont très nombreux à avoir des rapports sexuels non protégés. 1 sur 3 n'a utilisé ni préservatif ni pilule contraceptive lors de son dernier rapport. C'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans et en plus, les jeunes connaissent moins bien les risques. Reportage dans le nord de la France de Lise Verbeck.
Léa a 17 ans et n'a pas de tabou à parler de sexualité avec ses amis ou avec ses parents. Elle s'estime suffisamment informée sur la santé sexuelle, ce qui ne l'empêche pas de prendre des risques et d'avoir des rapports sans préservatif.
Parfois, j'en ai pas toujours. Et parfois, je sais pas, j'ai pas vraiment le temps ou l'occasion se présente pas trop.
Est-ce que ça peut être compliqué pour toi de dire aux garçons « on met un préservatif » ?
Oui, parfois c'est compliqué de le dire. Bah, c'est déjà en train de se faire et parfois je suis pas forcément à l'aise d'arrêter pour dire de mettre un préservatif. Ouais, j'ose pas forcément. Je sais que c'est pas très bien et qu'il faut pas, mais je les ai quand même et parfois je choisis, entre guillemets, de pas en mettre non plus. Donc ça reste de ma responsabilité aussi.
Elle sait qu'elle peut attraper des IST, infections sexuellement transmissibles.
Je suis déjà allée me faire dépister 2 fois. Heureusement pour moi, j'ai jamais rien eu, mais je sais que c'est possible. J'ai pas mal de copines, c'est un peu pareil que moi, elles en mettent, mais pas tout le temps. Souvent, il y a des moments de stress. Je ne compte plus les fois où on m'a demandé « Léa, est-ce que tu peux aller m'acheter un test de grossesse à la pharmacie, s'il te plaît ? J'ai peur d'y aller. » C'est déjà arrivé plusieurs fois, oui.
Toi aussi, t'en as déjà fait?
Oui, j'en ai déjà fait plusieurs.
Depuis plusieurs mois, en France, le dépistage est gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans. Et les pharmacies peuvent aussi leur délivrer gratuitement deux marques de préservatifs. Ce jeune couple de 16 ans l'a appris récemment avec une réserve.
D'habitude, je les achète, mais j'ai appris il y a pas longtemps qu'ils étaient gratuits. Du coup, bah, maintenant, je vais aller les chercher.
Après, je sais qu'au niveau qualité, ils sont pas forcément top. Il y a beaucoup de gens qui les ont testés et qui craquaient vite ou des trucs comme ça. Donc, vaut mieux dépenser son argent, franchement, et être sûr.
Pour Mathilde et Samira, l'utilité des préservatifs reste assez floue. Elles ont toutes les deux 14 ans.
En fait, ça dépend. Parce que dans tous les cas, s'il ne veut pas la mettre, bah, on prend la pilule. Je sais pas.
Et du coup, tu serais prête à avoir un rapport sexuel sans préservatif, mais si tu as la pilule, c'est ça?
Oui. Si je veux un enfant, déjà, ça dépend si je veux un enfant ou pas.
Et pour le sida, est-ce que vous savez comment vous protéger du sida?
Non. Non, pas du tout.
Je savais même pas que ça se transmettait comme ça.
En fait, c'est le préservatif qui permet d'éviter d'attraper le sida.
Ok, merci.
Et comment c'est que le garçon, il a le sida, du coup?
Et bien lui, normalement, il doit faire des tests.
Selon l'association SIDAction, les jeunes de 15-24 ans ont beaucoup moins de connaissances sur le VIH que les générations d'avant. Sur les risques de transmission, mais aussi le dépistage ou encore les traitements qui existent. Et en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, beaucoup de jeunes croisés à Amiens en ont déjà entendu parler, mais de manière très vague. Pourtant, ces questions doivent être abordées lors des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, obligatoires 3 fois par an, dans tous les niveaux scolaires depuis 2001. Dans les faits, seuls 15% des élèves en bénéficient. Mathilde et Samira, par exemple, n'en ont pas eu. La question sexuelle a juste été abordée vaguement en cours de sciences et vie de la Terre.
En SVT, on nous l'a dit. Comment on mettra un préservatif et tout.
C'était même pas un cours détaillé, c'est juste... Elle a juste dit qu'il fallait se protéger, mettre des préservatifs. Après, elle a pas dit comment on fait, ni... Ils ont pas expliqué plus que ça, genre c'était juste... Bref.
C'était vague.
Selon Santé publique France, les infections sexuellement transmissibles ont augmenté en 2 ans. Plus 110% par exemple pour la syphilis. Des hausses qui inquiètent les associations qui réclament plus de prévention à l'école. C'est le cas du planning familial 80, basé à Amiens.
Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut demander à tous les jeunes autour de nous, s'ils ont une séance par an, c'est le grand maximum.
Lucie Houlbrecht, porte-parole du planning.
Sachant que ces 3 séances, c'est pas les séances des SVT où on apprend comment fonctionnent les systèmes reproductifs masculins-féminins ou les menstruations. C'est pas du tout ces séances-là, c'est des séances de vraiment où les jeunes peuvent poser des questions et surtout ont leurs réponses à leurs questions, que ce soit des questions de pratique sexuelle, des questions d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle. Toutes les questions qui peuvent avoir trait à la sexualité. On va souvent invoquer des raisons de calendrier, des raisons de difficulté, des raisons de gêne en fait. Des raisons de gêne de parler sexualité à des jeunes. Or, on se rend compte que l'éducation à la sexualité, c'est essentiel pour des raisons de santé. Donc là, on va parler d'IST, mais aussi de grossesse non désirée, de choix qu'on peut avoir dans le cas d'une grossesse non désirée. Donc on va parler de l'IVG, évidemment. Et puis, pour des raisons donc d'accès aux droits. Le droit d'avoir une identité sexuelle qui est différente de celle qu'on a eue à la naissance. Le droit d'avoir une orientation sexuelle qui n'est pas celle de la norme. Toute la liberté qu'on peut avoir, il faut la connaître.
Pour pallier la gêne des professeurs à évoquer ces sujets, Blandine Karl intervient régulièrement en milieu scolaire et elle s'appuie sur des outils.
Bah, du coup, la boîte magique, c'est une boîte... En fait, on retrouve tous les contraceptifs qui existent, donc le préservatif interne. Donc on montre que c'est pas si bizarre que ça ressemble pas à un sac. Parce que c'est des fois ce que les jeunes peuvent me dire. Donc là, on a les préservatifs externes. On le déplie pendant la séance. Le patch, le diaphragme, les pilules. Et du coup, ça permet d'expliquer la différence entre les plaquettes. Et du coup, le fait de le voir visuellement, ça peut aider. Et en fait, sur l'outil, on retrouve tout ce qu'on doit savoir sur chaque contraception. Est-ce que ça protège des IST ou pas? Combien de fois il faut le renouveler? Les effets que ça peut faire aussi secondaires, etc.
Début février, le premier programme d'éducation à la vie affective et sexuelle a été publié au Journal officiel et sera effectif à la prochaine rentrée scolaire. Un texte très attendu par les enseignants. Pour chaque niveau, le texte définit les sujets à aborder. En primaire, c'est la connaissance du corps, l'intimité et le consentement. Au collège, c'est le sexisme, les alertes sur la pornographie et les IST. Et au lycée, l'identité de genre, par exemple.
Reportage dans le nord de la France de Lise Verbeck, à réécouter dans l'émission Accent d'Europe ce soir à 19h10 temps universel ou quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
RFI Midi. Un monde de tech.
Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
Les récentes menaces et mesures prises par l'administration Trump poussent certains à demander une moindre présence des technologies américaines en Europe et incitent ce vent de proposer des alternatives. Il s'appelle europeanalternatives.eu.
Oui, peut-on boycotter en Europe la tech américaine? Telle est la question qui se précise au fur et à mesure des assauts répétés de la nouvelle administration Trump contre les règlements du numérique de l'UE, une politique agressive qui était d'ailleurs palpable au Mobile World Congress de Barcelone la semaine dernière quand deux acteurs majeurs de l'industrie des télécoms européens confiaient ainsi avoir été menacés par des représentants des États-Unis de rupture de contrat et de poursuites judiciaires s'ils n'abandonnaient pas des législations de l'UE. À tout cela, évidemment, s'ajoutent les propos polémique et récurrent d'Elon Musk qui envisage le retrait de ses communications satellitaires du réseau Starlink à l'Ukraine. Il a fini toutefois par annoncer que cela ne se produirait jamais, mais sans pour autant relâcher la pression, puisqu'il a accusé hier soir sans preuve que la cyberattaque massive de la plateforme X était liée à des adresses internet situées justement dans la région de l'Ukraine. Bref, c'est la pagaille, la tech américaine, dans un contexte politique tendu enchaîne les intimidations.
Et le site europeanalternative.eu a donc passé en revue les possibilités des alternatives qui existent aux technologies américaines.
Effectivement, l'objectif de ce projet qui a été développé par l'informaticien autrichien Constantin Griff est d'évincer de notre quotidien les logiciels et les services émanant des grands groupes américains. Les solutions proposées par le site sont développées par des sociétés basées dans l'Union européenne, par des entreprises membres de l'Association européenne de libre-échange complet et approfondie avec l'UE.
Toutefois, couper le cordon ombilical du numérique américain, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Effectivement, côté matériel, par exemple, les ordinateurs de bureau ou portables dans la liste du site intègrent des composants vendus sous licence par des sociétés américaines, y compris quand ils sont assemblés par des entreprises chinoises. Et que dire des logiciels qui pilotent nos mobiles? Vous avez le choix, en fait, entre les applications Android de la firme Google ou celles du géant Apple. Même constat du côté des programmes de l'IA, qui sont principalement américains. Par ailleurs, impossible de trouver une alternative aux logiciels rattachés à Windows ou à macOS sans se tourner vers des systèmes dits open source et moins grand public comme Linux. Idem pour les TV connectés, les voitures automatisées ainsi que la plupart des technologies employées par les entreprises européennes. En définitive, la façon la plus efficace de boycotter le numérique américain résiderait peut-être dans une éducation aux médias sociaux, dans la sobriété numérique avec une utilisation raisonnée du web, de l'IA et de garder son mobile le plus longtemps possible.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech. À demain.
RFI Midi.
RFI à Tirana, 102 FM.
On va parler bande dessinée maintenant avec un grand nom, Marguerite Aboué. Elle publie le troisième tome des aventures du commissaire Kwame. L'incorruptible chef de la police d'Abidjan se retrouve cette fois à enquêter dans une ville française pour sortir sa nièce d'un trafic d'êtres humains. L'autrice Marguerite Aboué est au micro de Sophie Torlotin pour en parler.
Marguerite Aboué, bonjour.
Bonjour Sophie.
Le nouvel album de la série Commissaire Kwame vient de paraître. Le titre est très fleuri, est-ce que vous pouvez me le rappeler?
On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on ne règle pas les problèmes tout seul.
Et de fait, le commissaire Kwame va avoir besoin d'aide dans ce nouvel album qui commence à Abidjan, qui commence avec la sortie de la MACA, grand centre pénitentiaire d'Abidjan, d'un narcotrafiquant nigérien, d'origine nigériane, qui est métissé. Déjà, Marguerite, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous avez dû faire une enquête, non, sur le narcotrafic?
Alors, je me suis beaucoup renseignée, mais en même temps, quand je vais à Abidjan, il y a tellement de... On appelle ça des wanchas. C'est un peu une sorte de favela, au fin fond soit de pont, où il n'y a que des laissés pour compte en fait. Ce sont des personnes qui sont complètement droguées, il y a des femmes, il y a des prostituées, il y a des mamans avec leurs enfants en fait. Et ça cohabite avec, même à Cocody, un quartier assez chic, et vous avez ces belles maisons, et puis juste en dessous, c'est cette zone-là où plus personne n'y va. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc, pour moi, c'était pas en tout cas normal que les policiers... voit tout ça et ne fait rien. Donc j'ai commencé à me documenter là-dessus, et entre les narcotrafiquants, entre les policiers...
Les policiers corrompus.
Voilà, corrompus. Je me suis dit, bon, allez, enquête un peu là-dessus, parce que il y a toute une jeunesse qui fréquente ces endroits. La moitié, en tout cas, de cette jeunesse est complètement accro à ces drogues de rue.
Donc le commissaire Kwame commence par essayer de retrouver ce narcotrafiquant en fuite. En fait, on le retrouve assez vite, il est mort. Et puis là, votre album, Marguerita Bouet, nous emmène encore ailleurs, même si c'est lié, en fait.
Oui.
Parce que la nièce du commissaire Kwame a disparu et il va aller jusqu'en France pour essayer de la retrouver.
Il va aller jusqu'en France. Alors, tout ce milieu de narcotrafiquants va très loin, en fait, parce que, en même temps qu'ils fabriquent cette drogue du pauvre, comme ils appellent, il y a une partie de cet argent qui alimente tous les réseaux de prostitution. En fait, c'est la traite des femmes, tout simplement. Et donc, le commissaire Kwame, sa nièce disparaît, en fait. Elle se retrouve aussi dans ce milieu de trafic de femmes.
Et vous vous êtes amusée, si je puis dire, Marguerita Bouet, à situer cette partie de l'album à Angoulême?
Oui, alors parce que il y a 2 ans ou 3 ans, lors de la sortie du commissaire Kwame 2, lors d'une dédicace, j'étais avec Donatien Marie, le dessinateur, il y a le commissaire d'Angoulême qui fait la queue pour avoir une dédicace, qui nous dit qu'il adore le commissaire Kwame. C'est tellement déjanté, tellement en même temps un peu proche quand même de ce qui se passe ici. C'est la manière dont ils résolvent les enquêtes qui diffèrent complètement. Et donc, on se lie d'amitié avec ce commissaire et puis il nous fait visiter le commissariat d'Angoulême. Donc, je trouvais ça intéressant de faire justement se confronter les deux systèmes.
L'album Marguerita Bouet se termine sur un cliffhanger, comme on dit. Il y a du suspense, donc vous êtes déjà dans l'écriture, vous avez déjà terminé le tome suivant?
Non, mais j'ai tellement mis de choses dans ce tome 3, entre ce narcotrafiquant qui a une revanche à prendre, parce que pour lui, il a aidé le commissaire à attraper ce fameux métis qui sort de prison. Il se dit encore que ce commissaire-là dépasse les bornes, d'où aussi tout le titre. Donc en fait, je crois que dans le prochain, il y aura plein de suspense.
Marguerita Bouet, merci.
Merci.
Marguerita Bouet au micro de Sophie Torlotin. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI. Et puis à 12h30, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
À la une aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, une longue audition hier à l'auditorat militaire pour 3 cadres du PPRD, le parti de l'ex-président Kabila. Aubin Minaku, Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Cambéré qui sont ressortis libres. Et puis au Bénin, 7 ans après la dernière audience, le procès des assassins présumés du syndicaliste et opposant urbain Danivo a repris ce matin à Cotonou. 2 hommes sont dans le box des accusés pour cette affaire qui avait fait grand bruit.
A tout à l'heure, Nicolas Sûr. On va écouter un peu de journal pour le moment. Un peu de musique. J'en perds mes mots. Jeanne Chéral et
le
titre.
Le journal.
Jean, le journal, c'est un peu plus tard.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, j'en ai connu des plus beaux que vous, j'en ai connu, mais ils n'étaient pas vous. J'en rirai dans un mois, dans un an, j'en rirai si vous êtes à l'écran. La ligne de votre cul, Jean, ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean.
Jean de la chanteuse française Jeanne Chéral. C'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Pour un oui, pour un non, et tout peut changer, voler en éclats. L'histoire de trois syllabes et la fin d'une amitié. La pièce de Nathalie Sarraute est devenue un classique inscrite au programme du bac français, mais c'est surtout un bonheur de l'entendre au théâtre dans la nouvelle mise en scène de Sylvain Maurice.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.